Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Et les GG sont là, bonjour à toutes et tous, les amis, nous sommes présents, nous sommes avec vous, et avec votre esprit.
T'as raison, tu sais qu'aujourd'hui c'est vendredi saint.
Ben oui.
Alors tiens, le vendredi saint c'est quoi mes chers grandes gueules?
Alors, Étienne.
Avant Pâques?
Oui d'accord, merci.
Étienne Liebig, éducateur.
C'est la scène, la scène.
Aujourd'hui non.
Non, c'est pas la scène.
Non, aujourd'hui on célèbre quoi le vendredi saint chez les catholiques?
Pas la scène?
Non.
C'est une journée très importante.
Monsieur Giraud, docteur Marty.
Moi, je m'y connais tellement qu'à 5 ans ou 6 ans, j'avais dit à ma mère, mais de quelle religion on est, quoi?
Donc, oui, mais ça, ça fait partie
de la culture générale. La
culture générale,
c'est honteux de l'avoir oublié.
Vendredi saint, c'est le jour où Jésus a été crucifié.
Oui, crucifié, oui.
Le jeudi saint, c'est son dernier repas avec ses fidèles. Et le vendredi saint, c'est la crucifixion.
Joël, qu'est-ce que tu penses des deux païens que tu as en face de toi?
Parce que toi, tu es croyante et pratiquante.
Je pense qu'on dit que ce pays est de culture chrétienne. Ça me fait bien rire.
On est plus romain que chrétien. Mais
il faut que tu parles fort.
Ah, pardon, excusez-moi.
C'est parce qu'elle est en communion.
Allô, allô, à l'huile? Oui.
Ah non, c'est pas possible, alors.
Non, ça se fait plus.
Je vois bien, l'Esprit Saint ne t'habite pas sur ce coup-là, ma chère Joël.
Tu vas entendre. Dis plus ça?
Allô, allô à l'huile.
Allô à l'huile.
Je me demande si on va pas t'évacuer maintenant.
Moi, je pense qu'il faudrait peut-être rediffuser la vidéo de Joël sa salle de bain.
Alors, les amis, les GG sont là avec vous et nous sommes en forme pour discuter, pour débattre. On va commencer, tiens, tout de suite, en évoquant le train.
RMC, les grandes gueules.
Non, parce que ce matin, on écoutait M. Farandou. M. Farandou, c'est le patron de la SNCF. Il est venu défendre son outil de travail, le chemin de fer français, ce qui est très bien. Au moment où les Français battent des records de réservation pour les vacances d'été, là on est sur le week-end de Pâques, mais pour les vacances d'été. Et alors, on entend quand même beaucoup de gens dire « on veut prendre le train, on veut prendre le train en famille, mais ça coûte une blinde, une blindasse !» Et M. Farandou, voilà comment il répondait ce matin, en disant « écoutez, il suffit de regarder un peu, de trouver les bons plans. »
Si on sait jouer avec les Ouigo, où là effectivement les prix sont les plus bas, vous avez les Ouigo train classique même, quand vous acceptez de prendre un peu plus de temps pour voyager, pour aller à Nantes par exemple, pour aller à Rennes, pour aller à Lyon, là vous avez des places à 10 ou 15 euros. Alors bien sûr vous n'allez pas aussi vite que par un TGV. Donc si on sait jouer avec nos gammes de prix et nos gammes de services, on arrive à trouver des prix modérés entre 2023 et 2024. 40% des trajets n'ont pas augmenté. Les autres, les TGV Inouï, l'augmentation moyenne, 2,6%, en gros l'inflation, alors que nos coûts réels, eux, c'est plutôt entre 4 et 5%, notamment parce que le prix des péages et des péages ferroviaires, comme il y a des péages autoroutiers, ils ont augmenté de 8%. En fait, on ne répercute que la moitié de la hausse des coûts. On a réduit nos marges, en fait.
Vous avez entendu ce que dit M. Farandou, comme eux, leurs coûts ont augmenté, ils répercutent, même s'ils ont réussi à réduire leur marge. Alors, est-ce que voyager en train aujourd'hui, c'est devenu un transport de luxe? 32-16 pour en discuter avec les GG.
On verra au 32-16 ce que disent ceux qui nous écoutent. Enfin, quand on interroge autour de soi et quand on constate nous-mêmes, soi-même, quand on va réserver un train sur SNCF Connect, et notamment les TGV, bien sûr que ça n'a jamais été aussi cher. Alors, bien entendu, M. Farandou a raison, si on part le mercredi à 12h40 pour Bordeaux, c'est sans doute moins cher que si on part en famille le vendredi, veille du week-end de Pâques. Mais le problème, c'est que le train, on le prend effectivement pour les vacances, pour les week-ends. Alors, le paradoxe, c'est quand même que ça marche, hein, puisque plus de 2 millions de billets de train ont déjà été réservés pour cet été. C'est une augmentation par rapport à 2023, qui était déjà une belle année. Mais c'est vrai que le train coûte cher. Le train coûte cher pour celui qui prend le billet, mais le train coûte cher pour les contribuables. Ça a d'ailleurs, là aussi, jamais été aussi cher. Il y avait une étude qui avait été réalisée par un site d'information spécialisé sur les finances publiques, Fipeco, qui expliquait que le coût total de la SNCF pour les contribuables, ménages et entreprises, c'était de 20 milliards d'euros par an. Par exemple, l'État finance encore les retraites des cheminots malgré les réformes. Ça coûte 3 milliards d'euros par an. Il y a les régions aussi qui financent les TER, etc. La seule chose qui est rentable, c'est le TGV. C'est pour ça que c'est cher. Alors, ce que disait Farandou, c'est qu'avec les marges qu'ils ont sur le TGV, ils financent le reste. Est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que finalement, on n'a pas le choix de payer aussi cher ? Ou est-ce que c'est plutôt vive la bagnole ?
32-16 pour en discuter avec les GG.
Truchot, il a une façon de parler. Bah,
c'est la concurrence.
Bah, vive la bagnole.
Mais non, mais la seule concurrence au train.
Mais vive l'avion qui pollue, bordel.
La seule concurrence au train qui a un monopole, la SNCF a un monopole, sauf sur certaines lignes, Paris-Lyon notamment, c'est la voiture. Sinon, on n'a pas le choix.
Alors, qu'est-ce que vous en dites, Joël ?
Non, je remercie Guy Les Bons Tuyaux, monsieur Parandou, qui nous explique comment on peut se démerder à travers ce site de la SNCF. Mais on ne l'a pas attendu, en fait. Et moi, ce que je déplore, c'est que je retrouve le même comportement que j'avais quand j'étais étudiante, donc avec un tout petit budget, quand je me débrouillais pour partir en vacances. Donc, en fait, qu'est-ce que je faisais ? Je regardais, à l'époque, il y avait encore des trains de nuit, il y avait beaucoup de trains de nuit. Donc, quand je voulais partir dans le sud, je regardais, je prenais des trains de nuit, donc je voyageais toute la nuit juste pour faire, Paris-Agde. Parce que j'étais étudiante et qu'on voulait partir entre copines. Aujourd'hui, alors que mon pouvoir d'achat et mes revenus ont augmenté, je ne suis plus étudiante. Je me retrouve à avoir exactement le même comportement qu'une étudiante, c'est-à-dire à regarder les trains lents, comme il nous a dit, puisqu'il a dit
le oui roulant. Les trains
lents, voilà, tu vas encore au Cap d'Agde
Non, pas pour aller au Cap d'Agde.
Pour les mêmes raisons.
C'est avec le maire qui aime les voyantes ventriloques.
Étienne, c'est l'humour. On est en dessous des, tu vois, la ceinture là.
Quoi, j'y suis allée longtemps, mais pas pour ce que tu crois, monsieur.
Le Ouigo-Lyon, c'est-à-dire que le Paris-Rennes, au lieu de le faire en 1h30, tu le mets en quoi, en 6h ?
Ouais, c'est ça. J'avais fait un Paris-Nantes en je ne sais plus, 4-5 heures, au lieu de 2 heures. Je crois que ça fait 2 heures, Paris-Nantes, ou 2 heures et quelques. Donc, effectivement, on se retrouve à avoir des comportements de gens qui ont un très faible pouvoir d'achat et qui font de la débrouille. Donc, on le remercie pour ces tuyaux, mais c'est le cas et on est pas bête. Maintenant, je regrette quand même que ce soit devenu aussi cher. Quand tu es en famille, c'est vraiment compliqué de...
Malgré les cartes, parce qu'il y a des cartes d'avantages.
Mais même avec les cartes, vous êtes quatre. Vous êtes quatre, tu te retrouves à 800 euros facile.
Aller-retour.
Et oui, ça, c'est juste pas possible.
Jérôme Marty.
Ça fait bien longtemps que la SNCF a abandonné le concept d'égalité, quoi. On a bien vu que dans plein de territoires, on a enlevé des lignes qui n'étaient pas rentables, en se disant, bon, après tout, on s'en fout, ils débrouilleront, ils prendront la voiture, etc. Alors que c'était un moyen de désenclaver d'un tas de territoires. Ben, on a regardé uniquement à la fois l'économie ou les bénéfices de cette entreprise. Et en même temps, on ne peut pas non plus dénoncer ce que tu faisais tout à l'heure, Olivier, le fait que ça coûte très cher en impôts et en taxes. Et reprocher à la SNCF d'augmenter ses tarifs, ce qui pourrait permettre de diminuer après
Oui, mais visiblement, ça ne fait pas diminuer la facture.
Non, mais ce qui est détestable,
un peu comme l'État, c'est-à-dire qu'on paye de plus en plus d'impôts.
Là-dedans, c'est qu'ils ont le même comportement que les hôtels. Ouais. C'est-à-dire que c'est la demande qui crée le prix.
Comme dans la
ville. Pas loin de BFM, tu as un hôtel où quand tu regardes le panneau à l'entrée, tu as les chambres, on te dit tarif des chambres de 199 à 1999.
Ah oui, dans les JO, ça va être 1999.
Extraordinaire. Et là, eux, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup besoin de trains, c'est beaucoup plus cher. Et débrouillez-vous.
C'est la loi de l'offre et de la demande.
Oui, mais c'est le problème, c'est que...
Est-ce que c'est encore un service public ?
Est-ce que c'est un service public ? C'est exactement ça, quoi. À un moment, c'est comme si tu parles de l'hôpital. Est-ce que tu dois regarder, est-ce que l'hôpital doit être rentable ? Ou est-ce que l'hôpital doit amener le même service à tout le monde dans un concept d'égalité ? C'est un vrai problème, ça. Hein. Et là, on l'a complètement abandonné
en, fait,
en disant non, c'est une entreprise comme une autre. Et puis après tout, les gens seront les variables d'ajustement. Et puis, ils s'aligneront sur les tarifs qu'on fera. Et il te le dit, c'est le patron de la SNCF, il te dit non, mais si vous vous débrouillez, à certaines heures, vous pouvez partir. Ouais. Et puis, ma foi, si c'est plus fatigant pour vous, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si, c'est grave.
Les dernières études montrent qu'il y a 2 Français sur 5 qui estime que le prix du train est trop cher aujourd'hui. Et le prix moyen, il y avait un calcul qui a été fait sur l'année, le prix moyen d'un billet de TGV est de 45 euros. Alors après, tu multiplies par
Farandou dit que ce prix moyen n'a pas bougé ces dernières années. Il s'en félicitait ce matin chez Apple.
Monsieur Étienne.
Écoute, moi je sais que c'est la mode de toujours tout critiquer, surtout ce qui est français, donc il faut absolument critiquer ce qui est français et aduler ce qui est étranger. Moi, je vais vous dire que c'est la même chose partout. Hein. La SNCF, c'est comme les autres compagnies, même là où il y a de la concurrence. D'ailleurs, là où il y a de la concurrence, c'est souvent un énorme bordel parce que il y a jamais personne pour te renseigner. Tu sais jamais quel train tu dois prendre. Mais la SNCF, en fait, elle fait pas de bénéfices.
Si, donc,
elle
est TGV, si.
Non, mais elle fait des bénéfices pour payer autre chose. C'est pas une boîte privée qui gagne de l'argent pour nourrir des actionnaires. Donc c'est pour l'instant on n'est pas c'est pas Orpea. Donc on est sur des gens qui sont normalement payés pour faire un travail avec des ça coûte très très cher de mettre une ligne. On avait eu ici le ministre qui était venu nous expliquer combien ça coûtait d'installer une nouvelle ligne. Effectivement, ils développent des lignes, ça coûte très cher. Et ensuite moi je crois qu'on a un petit fantasme sur le fait que dans le temps ça coûtait pas cher. Alors dans le temps, effectivement, ce qui était extraordinaire, c'est que beaucoup de villages étaient desservis, et que maintenant ça a été remplacé par les bus. Et je suis d'accord avec toi, le bus ne remplace pas en réalité. Par exemple, si tu installes ton entreprise à Arnay-le-Duc, c'est pas pareil d'avoir un bus qui part de Dijon pour aller à Arnay-le-Duc que d'avoir le train qui vient pour faire venir des clients. Ça, c'est sûr que ça a vraiment désavantagé. Et là, ça a été un choix de la SNCF, mais qu'on voit à peu près dans beaucoup de pays européens, c'est-à-dire que à part l'Italie qui a continué d'avoir des trains qui desservent beaucoup les villages, mais partout on le voit. Mais je pense que le prix a priori, même s'il nous paraît cher, il est justifié. Et déjà le prix dans le temps quand on prenait le train, ça a toujours été assez cher le train, et on n'avait pas les avantages qu'on a aujourd'hui au niveau rapidité. C'est vrai qu'on a une exigence quand on te dit effectivement Rennes ou Nantes 1h30. C'est absolument incroyable. Pour aller à Bordeaux, c'est absolument incroyable. Et par contre, il y a des villes. Toulouse et Clermont-Ferrand, c'est un enfer sur terre. Mais quand tu vas à Marseille aujourd'hui,
c'est même plus lent qu'avant. Par exemple, le Paris-Caen en train est plus lent.
C'est un délire.
Qu'à la fin du 19e siècle.
La Bretagne, comme
la ligne n'a pas été bien entretenue, ça va plus lentement qu'avant.
La Bretagne est hyper mal desservie. Quand tu veux te déplacer en Bretagne en train, c'est compliqué. On a l'impression d'être au 19e siècle.
Ça a été des choix politiques, validés d'ailleurs par les Français.
On va en parler avec Michael qui est dans l'Essonne, Michael qui est chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment. Bonjour Michael.
Bonjour.
Bonjour Michael, parce que vous avez une expérience de train étalée sur plusieurs années, vous. Hein.
Ah oui, tout à fait. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on avait abandonné la voiture, qu'on prenait le train et qu'on louait une voiture sur place.
Quand vous dites « on », c'est-à-dire
la boîte. Moi, ma femme et mes filles.
Ah, d'accord. Combien de filles ? Quatre.
Maintenant qu'on est trois, et ma femme, pourtant, est la reine des bons plans à être dès les ouvertures de billets, etc., les Ouigo, les SNCF, enfin tout, impossible de trouver un prix abordable.
Qu'est-ce que vous appelez abordable ?
Sur quelle ligne ?
Alors, nous, on descend en général Toulon ou hier.
D'accord, oui. Ouais.
Et là, c'est plus possible. Avant, on arrivait à trouver des billets à peu près dans les 100 euros par tête.
Oui.
100, 120 euros. Là, on a regardé en dessous de 200, 220 euros, impossible. Non,
par personne ?
Oui, par personne.
Bah
oui.
Pour rassurer, monsieur Farandou vous a dit on doit pouvoir arriver à trouver les bons plans.
Écoutez, vous savez quoi ? Ma femme, elle a fait l'ouverture des billets. C'est impossible. Impossible. En Ouigo, même en Ouigo, hein, je veux dire, on n'est pas regardé à la première classe.
Et combien ça vous coûte d'y aller en voiture avec le péage et l'essence ?
Alors, grosso modo, on a à peu près 120 euros aller, 120 euros retour de péage, ça fait 240 euros. Et on va recompter à peu près 150 euros de gasoil ou d'essence, pardon, ou 200 euros. Donc on va être à peu près à 450 euros.
C'est pas rien non plus, mais ça coûte moins cher que le train.
Ah oui, ça divise.
Voilà. Avant, on arrivait à trouver des billets sur une centaine d'euros par personne. Donc on était à peu près dans les 400, 300, 300 euros quand on descendait à 300, 400 euros. Et on arrivait à trouver une voiture dans les même pas 200 euros de location. Donc si de temps en temps à 4, ça nous coûtait 100 euros de plus, on gagnait quand même 2 jours de congé.
Et vous avez pourtant la carte avantage, non ?
Oui, on a la carte famille nombreuse en plus. Mais même avec la carte famille
avec les réductions.
Là, c'est avec les prix de la carte famille nombreuse.
Ah oui, d'accord.
Donc attention, hein, c'est les prix revenus.
Et là, les dates, c'était quand ? Parce que je me demandais si pendant les JO,
en novembre,
ça va être plus cher.
C'est avril, je crois, ou quelque chose comme ça.
Pour les vacances de Pâques, quoi.
Voilà, pour les vacances de Pâques.
D'accord.
Mais tous les ans depuis 10 ans, on ne prenait plus la... Quand je vous dis 10 ans, c'est peut-être 15 ans qu'on ne prenait plus la voiture, quoi.
Donc en fait, ce qui est complètement dingue, parce que le train est plus écologique, nous dit-on, et donc il faut prendre le train par rapport à la voiture. Et finalement, derrière, on a une politique tarifaire qui pousse Mickaël à reprendre la voiture. Donc là, encore une fois, on est dans
des contradictions. Attendez, Mickaël, parce que Joël, vous voulez réagir à ce que vous racontiez.
Vous avez des enfants, et vous allez me dire si vous avez déjà fait ce que j'ai déjà fait, malheureusement. J'en suis pas très fière.
T'es les abandonné sur la route ?
Non.
Si tu prends pas la
tâche à un arbre.
C'est que ça contribue au fait qu'on enlève les enfants plutôt de l'école. Ah oui. Moi, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que
c'était
trop cher de partir le samedi matin, alors elle n'ira pas à l'école le vendredi. Eh oui. Et les prix du billet du vendredi, tu as 50 euros de différence ou 60 euros de différence.
Beaucoup de parents.
Et quand tu as deux ou trois enfants, bah, du coup, ça te fait tout de suite 150 euros.
Et ben,
tu le fais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, je l'ai déjà fait.
Je vous invite à regarder parce qu'on y a pensé. Hein. Je vous dis, ma femme, c'est une experte là-dedans. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas 50 euros par billet de différence. Hein.
Ah bon?
C'est non, pas possible. Non. Si on gagnait 20 balles, si on gagnait 20 euros, c'était le maxi, je crois.
Faut pas faire le soir, Mickaël. Faut faire vraiment le matin. Donc, faut
prendre le matin.
Faut pas faire le soir la veille. C'est vraiment
votre
le matin.
Votre femme se lève vers 4 heures du matin.
Matin la veille.
Je vous dis qu'on a tout étudié, à part partir peut-être le jeudi ou le mardi.
Ça fait beaucoup de jours ratés pour
le. Ça fait beaucoup de jours ratés, c'est compliqué pour
et
le boulot.
Et si vous les faisiez partir le lundi directement, si vous partiez tous le lundi,
vous revenez
en
le
prévenant
mardi.
Personne, voilà, c'est-à-dire non, ni l'employeur,
c'est qu'on
ni.
La suite et qu'on parte en vacances scolaires, c'est encore mieux.
Ouais, c'est ça, vous avez raison.
On en a plus qu'une.
Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, quand on a les enfants, c'est vraiment double peine. Ça te coûte plus cher. Tu pars pendant les vacances scolaires, t'as pas le choix, donc tu pars avec tout le monde, forcément.
Oui, tu es contraint.
Tu es contraint, donc avec ce principe de faire payer plus quand il y a plus de monde. Donc en fait, t'es vraiment perdant.
Mickaël, je vous remercie de ce témoignage.
Après, il faut. Non, mais c'est pareil. Après, t'as le président Macron qui nous dit qu'il faut se réarmer démographiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir des injonctions contradictoires. On ne peut pas nous expliquer que le train, c'est plus écolo. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est formidable le train. Mais finalement, ça coûte plus cher que la bagnole. Et puis, on nous dit qu'il faut se réarmer démographiquement, on ne fait pas assez d'enfants. Et finalement, on pénalise les familles. Enfin, tout ça est contradictoire.
Et ça coûte toujours plus cher sur l'avion. Mais surtout, tu finis par te poser la question, mais qu'est-ce que c'est le concept de service public ?
Et
à quoi ça sert que ce soit un service public si on fait ça ?
Ben oui.
Je veux dire, si le service public, c'est pas pour amener de l'égalité et amener la possibilité de voyager à tout le monde, à quoi ça sert ?
Faudra payer plus
d'impôts,
alors.
Bonne chance, on va mieux gérer quand même les bons tarifs. Allez, on continue de discuter des tarifs de la SNCF. Est-ce que c'est un produit de luxe aujourd'hui ? 32-16 pour en discuter avec nous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Joël Dagosséry, Étienne Liebig et Jérôme Marty. On va discuter avec Soraya dans un instant. Elle est dans les Alpes-Maritimes. Elle va nous parler de comment elle arrive à prendre le train avec ses trois enfants. Alors, on avait les deux
entre
filles
deux
de Mickaël. Maintenant, on a les trois enfants.
Mais elle a dû faire un choix.
Soraya, je discute avec vous. On discute avec vous dans un instant. Juste pour vous rappeler d'abord qu'on a 50 000 euros à vous faire gagner. Le coffre. C'est le coffre RMC qu'on va ouvrir.
Ça fait un voyage à Angers.
Allez, c'est juste l'aller. Non, 50 000 euros à gagner. Comment ça se passe? Vous le savez, dès que vous entendez l'alerte coffre, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, vous êtes tiré au sort. En étant tiré au sort, vous gagnez d'ores et déjà 2500 euros. Ces 2500 euros, soit vous les gardez, vous dites « Ok, c'est bon pour moi », soit vous me dites « Allez, je les laisse tomber et je tente l'ouverture du coffre ». L'ouverture du coffre à l'intérieur, soit un séjour dans un des campings dans le sud de la France, Tikayan, pour 6 personnes, soit les 50 000 euros.
Ils vont tomber les 50 000
euros. Donc,
j'ai vu celui qui gère le coffre ici, il me dit ça va tomber et ça va sans doute tomber chez nous. J'y crois.
J'espère.
Bon, ça, il ne l'a pas dit, mais c'était, je supposais. C'est la,
allez,
la
déduction. Dès que vous entendez l'alarme, vous envoyez coffre par SMS au 732-16.
C'est net d'impôts, hein, faut le rappeler. Oui. Bruno Le Maire nous l'a confirmé cette semaine.
À vous de jouer, à vous de gagner. Soraya, bonjour. Bonjour Soraya.
Bonjour les GG.
Bienvenue ma chère Soraya. Bonjour. Alors, est-ce que le train, c'est devenu le luxe ?
Bien sûr que c'est du luxe le train, moi. Encore la semaine dernière, alors je me prends jamais à l'avance pour mes vacances. Enfin, pour mes trajets, etc. C'est vrai. Et donc, je veux rentrer dans la famille à Besançon. Donc, je suis du côté de Nice.
Oui.
Et je regarde le train. 130 euros pour une personne, l'aller. J'ai dit, pas possible, quoi. J'ai trois enfants. Donc, j'ai dit même pas en rêve, quoi. 400 euros l'aller, enfin plus de 400 euros, presque autant au retour. Donc, j'ai regardé les avions. Bon, pour aller sur Lyon, ça fait cher. Je me suis dit, après, je prends le train. Donc, c'est un peu la débrouille. Hein. Et finalement, j'ai trouvé un avion pour Genève. Avion pour Genève. À Genève, on vient me récupérer. Il y en a pour 1h45 jusqu'à chez moi. Enfin, chez mes parents. Et l'aller pour Genève, 20 euros.
Voilà. Ah oui, ouais. Avec ouais. qui ? Quelle compagnie ?
EasyJet.
D'accord. Donc, voilà, en fait, voilà. vous voilà. partez de Nice, c'est vous allez à Genève.
Oui.
Et Genève, vous revenez sur.
Vous déposez les millions en banque.
Non, mais ça veut dire. Ce que nous dit Soraya,
c'est
que. Parce que Étienne, qui nous explique que c'est formidable le service public et que la
SNCF. On n'a pas le droit de le dire.
Non, mais tu as dit que la SNCF était une entreprise bien gérée. Oui, ça fait rire tout le monde sur le plateau. Mais et là, on voit bien qu'avec une compagnie privée, finalement, ça coûte moins cher que le service public qui nous coûte 20 milliards d'euros par an.
Ah oui ? Ah oui, j'en ai pour 180 euros pour les 4 allers-retours. Genève. Voilà. Nice Genève, Genève Nice, voilà. En le prenant à 3 semaines, hein, pareil. Hein.
Et ensuite, il y a juste combien de temps de voiture pour revenir chez vous ?
1h45.
Bah oui.
C'est pas grand-chose. Hein.
Non. Ok, voilà.
Avec
donc
trois enfants, tout ça, tous ces allers-retours et.
Oui. Et en sachant qu'il fait moins 12 à Besançon en ce moment.
Le vrai scandale, le grand scandale, et ce que j'ai vu quand j'ai essayé de réserver des billets là pour cet été, c'est que je paye autant d'impôts, même si Étienne dit que c'est super et qu'en fait tout se tient, moi je ne trouve pas, et qu'en plus on te donne la possibilité de faire un crédit, donc en fait sur un service public pour payer tes billets d'avion. Puisque tu peux les payer en 3 ou 4 fois avec un crédit. Et ça, je te jure, cette logique-là, elle m'a achevée. Je me suis dit, comment on peut payer autant d'impôts, avoir un service public et faire un crédit pour accéder à un service public ? Ça, c'est juste scandaleux. Et moi, je demande à ce qu'on regarde les coûts de fonctionnement de la SNCF, parce que je suis sûre que c'est comme la France entière, dans tout notre État tel qu'il le gère, il y a forcément... un fonctionnement qui demande beaucoup, beaucoup d'argent et qui se répercute sur les prix. On ne va pas me faire croire que c'est juste l'offre et la demande.
Non, mais ça coûte,
ça coûte très cher une ligne.
Ça coûte, honnêtement, ça coûte horriblement cher de faire... Moi, j'étais surpris, là, c'était un peu différent, mais j'ai vu que la ligne 11 va être prolongée jusqu'à chez moi, la ligne 11. Ce qui va changer notre vie. Hein. La ligne 11 est prolongée. Quand j'ai vu le coût, t'avais l'impression, elle est aux portes des Lilas et elle va arriver à Noisy-le-Sec, tu te dis, bon, ça va, c'est pas... Mais le coût, c'est des milliards et des milliards.
Mais la grande erreur, excusez-moi, mais c'est de regarder l'économie de façon micro, c'est-à-dire regarder uniquement la SNCF, est-ce qu'elle coûte, est-ce qu'elle est déficitaire ou pas, et de ne pas regarder ce que apporte la SNCF à la vie d'un pays en termes de richesse. Dès l'instant où tu vas implanter justement une ligne, que tu vas faire bouger la population, que tu vas faciliter les échanges, etc., tu crées de la richesse. Et donc même si la SNCF te coûte et qu'elle est déficitaire, ce qu'elle apporte...
Bien sûr.
Et bénéficiaire. Et c'est ce calcul qui doit être fait. Et qui n'est pas fait pour la médecine non plus. On ne regarde pas ce qu'elle rapporte, on ne regarde que ce qu'elle coûte. Et c'est ça la grande erreur de ce pays. C'est qu'on est tout le temps focus, là, avec une espèce d'esprit étriqué sur uniquement l'outil.
Il n'y a jamais de projection sur l'avenir. Tu as raison, on ne fait jamais le calcul de ce coût. Mais tu as tout à fait raison. Là, il y a un livre qui va sortir. Les 160 000 enfants qui sont victimes de maltraitance familiale, on sait qu'ils vont avoir des problèmes psychologiques. Au lieu de s'attaquer à ça, on laisse glisser, on s'en fout. Alors, parce que ça nous impacte moins que la cannabis. Et c'est tout comme ça, tu as raison. Les villes qui sont abandonnées par la SNCF, elles meurent.
Mais ça coûte 100 fois
plus cher. Et donc, ça nous coûte 100 fois plus cher.
Alors, je remercie Soraya de nous avoir donné son tuyau. Soraya, bon vol, bon voyage, Soraya.
Merci, bonne journée.
À bientôt, Soraya. À bientôt dans les GG. Dans un instant, on discute avec Stéphane, qui est employé de banque, lui aussi, il nous appelle des Landes. Mais d'abord, on va en parler avec Patricia Perrenne, qui est économiste et qui est spécialiste du transport ferroviaire. Bonjour, Patricia.
Bonjour.
Bonjour. Bon, alors, expliquez-nous pourquoi ça devient aussi cher, la SNCF, la SNCF.
En fait, déjà, il faut rappeler quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui est donné par l'État pour les TGV. Donc, ce qui est cher, c'est les TGV. Et pourquoi c'est cher ? Quand vous réservez un billet, vous avez bien vu, le prix varie en fonction de la demande. Et depuis 2-3 ans, depuis la sortie du Covid, il y a de beaucoup de gens qui veulent prendre le train, et comme il y a beaucoup de demandes, et bah, du coup, le prix augmente, en fait. Voilà, c'est vraiment lié au fait que les billets varient en fonction de différents critères, ce qu'on appelle le yield management, et notamment en fonction de la demande. Donc, en ce moment, très forte demande, les billets de l'été sont partis tout de suite, et du coup, les prix augmentent. Voilà, c'est concrètement
et
ça.
Et grâce aux bénéfices faits avec le TGV, ça permet de financer autre chose ?
Oui, exactement, parce qu'il faut rappeler qu'SNCF est une entreprise 100% possédée par l'État, et que du coup, tout l'argent qui est fait, le bénéfice, il y a eu donc un peu plus d'un milliard cette année, a été reversé pour entretenir le réseau. Ouais. Donc, l'argent des billets TGV, ça nourrit pas des fonds de pension américains, il faut garder ça à l'esprit, c'est réinjecté dans l'infrastructure.
Ouais. Combien la SNCF investit en ce moment pour rénover son infrastructure, justement ?
Alors, du coup, ce que la SNCF a mis directement cette année, c'était à peu près un milliard
d'accord.
d'euros.
D'accord. Mais vous avez entendu aujourd'hui pour les familles, parce qu'on nous pousse à prendre le train pour justement décarboner nos vies, nos villes, etc. Donc ça paraît, pour un service public, ça paraît quand même parfois un peu paradoxal d'avoir des prix aussi chers.
C'est pas, le TGV, c'est pas un service public. Public, c'est un service pour lequel l'État donne de l'argent. Oui. Or, le TGV donne pas, l'État donne pas d'argent au TGV. C'est pour ça aussi
l'État donne de l'argent. Pardon, mais l'État finance les retraites des cheminots. L'État donne beaucoup d'argent par ailleurs.
L'école privée.
Donc, c'est trop facile de dire que finalement, rien de l'État vient dans le TGV.
Alors, ils donnent de l'argent aux retraites des cheminots, mais c'est tout à fait différent par rapport aux trains express régionaux, aux TER. Dans ce cas-là, l'État donne les régions donnent 75% du prix du billet, en fait, est subventionné.
Oui, bien sûr.
Donc, on est dans une logique un peu différente où, en fait, l'État demande à SNCF de gagner de l'argent. Donc, après, on peut taper sur SNCF en disant les billets sont trop chers, mais, ils peuvent pas.
Non, on tape pas sur SNCF. On se pose la question de cette logique, en fait.
Alors là, du coup, il faut aller voir l'État pour dire que dans ce cas-là, il faudrait mettre de l'argent, mais peut-être pas baisser les prix en général. En tout cas, moi, c'est pas ma position. Peut-être de cibler sur certains publics. Et vous l'avez dit, les familles, notamment les familles de catégorie moyenne qui prennent le train, on va dire, une fois par an pour aller à la mer. Voilà, c'est là qu'il y a un enjeu. Et il y a un tarif qui existe, qui est le tarif congé annuel que personne connaît, qui permet d'avoir 25% de réduction. Mais c'est vrai qu'il y a un manque, quoi. Je suis d'accord que pour les familles, notamment de classe moyenne, ça vaudrait le coup de faire un tarif spécial, un tarif pour cette date-là, pour les dates des congés. Après, une subvention globale, une baisse globale du prix des billets, ça signifie qu'il y aurait moins d'argent dans l'infrastructure. Il ne faut pas se voiler la face aussi. Dans les TGV, quelle est la population ? Donc, il y a des chiffres. En gros, dans un TGV, 80% des gens qui sont dans le train sont des cadres, ont une catégorie cadre. Donc, si vous baissez globalement les tarifs, vous allez aider les cadres, vous n'allez pas forcément aider les familles.
Comme les hôtels de luxe.
Donc, ça veut dire que vous confirmez que le TGV, c'est plutôt pour les gens qui ont les moyens, non ?
C'est pour les boîtes ?
C'est ça. Mais au-delà de ça, mais si vous faites y compris le week-end, qui est dedans, c'est des cadres qui vont où ? Leur résidence secondaire est qu'habitent à Paris. Moi, j'habite dans le Berry. Voilà, je suis très à l'aise avec ça, j'habite dans le Berry, dans le centre de la France. Je veux vous dire, les Berrichons, ils vont pas se faire un petit week-end à la mer. Ils prennent la voiture pour aller voir leur grand-mère qui habite à quelques kilomètres. Voilà. Mmh. Le TGV, qui a besoin de se déplacer à longue distance ? C'est pas tout le monde. C'est des gens qui ont fait une carrière nationale, c'est des gens qui ont des maisons secondaires, c'est des gens qui habitent dans les grandes
villes.
Donc,
c'est devenu bien.
Oui, mais alors, justement, Patricia.
C'est devenu, ça l'a toujours été par la nature même de la demande de transport.
Patricia,
les gens qui se déplacent.
D'accord. Comment on va dans le Berry en train ?
En TER, en train express régional.
D'accord.
Voilà, vous avez un TER.
Il n'y a personne qui va dans le Berry.
Et combien de temps on met ?
Ce week-end ?
Ah ben si, les gens vont à Bourges pour la capitale de la culture 2028 et ils vont aussi pour le printemps de Bourges qui commence bientôt. Il faut venir en TER.
Est-ce que le TER est bien entretenu, par exemple ?
Oui, le TER. Alors là, pour le coup, il y a eu un changement récent de matériel roulant. On souffre moins, on va dire, que Limoges ou Clermont-Ferrand qui ont les intercités.
C'est-à-dire quand on a deux enfants en bas âge, on prend le TER, on fait 600 bornes avec, on va faire 25 carrés, on a les gosses qui pleurent, etc. C'est bien. Alors qu'on peut avoir la possibilité peut-être de le faire en une heure avec le TGV. Mais le TGV, c'est que pour les cadres. Bah, vous rendez compte de ce que vous me dites ?
Je suis désolé.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une perméabilité. Vous êtes économiste et vous le savez bien. Donc ça veut dire que quand on a la SNCF, là où elle perd de l'argent, elle en fait gagner par ailleurs, quoi. Et c'est ce calcul qu'il faut faire. Qu'est-ce que la SNCF fait gagner quand elle fait déplacer des populations qui travaillent ou qui travaillent pas ? Qu'est-ce qu'elle fait gagner au pays ? Si on regarde que le coût de la SNCF, on est dans l'erreur, on va dire que ça coûte, alors qu'en fait elle fait gagner énormément d'argent par le déplacement de la population, mais on ne veut pas faire ce calcul.
Allez-y, Patricia.
également, en fait, c'est mal connaître la sociologie de quand, pourquoi les gens se déplacent. Il ne faut pas imaginer que les catégories les plus populaires, même si le TGV était gratuit, ils prendraient pas le train parce qu'ils n'ont pas de raison. Ils ne vont pas se payer l'hôtel pour un week-end. Si, pour le coup, il y a des choses très sérieuses là-dessus. C'est des choses qui sont... Donc, si on rend le TGV gratuit, il y aura toujours... C'est comme les musées gratuits. Vous pouvez rendre les musées gratuits. C'est pas l'unique barrière qui fait que les gens... Parfois, mais c'est pas lui. Et vous pouvez regarder qui va au musée. Non, oui, c'est pas sûr, l'unique barrière, le prix. Voilà, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un prix qui est intelligent. Il ne faut pas baisser le prix en général. Il faut baisser le prix pour des familles. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis mère de famille nombreuse. C'est pareil, je sais ce que c'est. J'habite dans le centre de la France. Je suis mère de famille nombreuse. On n'aille pas me reprocher d'être une beau parisienne. Voilà. J'ai conscience de ces réalités-là. Et clairement, baisser globalement les prix des TGV, le procès qui est fait actuellement au TGV, je pense que c'est, voilà, c'est accuser SNCF de faire ce que l'État lui demande, c'est-à-dire de gagner de l'argent sur le TGV.
Ça,
et penser qu'une baisse globale des prix, ça va permettre
au chef de rayon de chez Carrefour, localement, il va pas prendre le TGV. Non mais tout le monde, je crois que personne critique le TGV en tant que tel parce que c'est une belle réussite française et c'est très agréable de voyager en TGV. Je crois que en fait le débat il est pas là. Le débat est sur effectivement les injonctions de l'État qui sont contradictoires par des
Patricia, je voudrais qu'on écoute Stéphane qui est avec nous dans les Landes. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tous. Alors je suis pas dans les Landes là, justement je suis remonté en région parisienne pour venir bosser.
D'accord.
En fait, moi j'habite dans les Landes maintenant depuis le début du mois de janvier.
D'accord.
Et en fait, toutes les semaines, je remonte travailler sur Paris. Mmh. Alors au début, je payais mon aller-retour autour de 80 euros. On m'a dit à la SNCF, achetez une carte avantage à 49 euros à l'année, vous allez pouvoir bénéficier de tarifs à moins 30%. Alors effectivement, au bout du deuxième billet, j'ai effectivement eu ma carte remboursée. Sauf que depuis la carte avantage, j'ai plus aucun billet à moins 30%. Ma carte n'est plus éligible. Je me retrouve à payer des allers-retours autour de 190 euros la semaine. On m'a proposé de prendre une carte avantage Maxi Plus. C'est 650 euros
Mais c'est cher.
Par mois.
Ouais,
c'est délirant. Et en plus, c'est uniquement valable du lundi au jeudi.
Ah.
D'accord. Et j'écoutais, je crois que c'est Patricia qui parlait.
Oui, économiste.
Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Elle parlait d'un prix intelligent. J'arrive pas à comprendre pourquoi certains jours, à certaines heures, les prix passent du simple au double. Moi, il faudra m'expliquer.
C'est le logiciel.
Est-ce que Patricia est là encore?
C'est des algorithmes.
C'est le même que Booking. C'est
des algorithmes. Et autre chose, il y a eu des fois où j'ai voulu prendre un seul billet pour entrer.
La semaine, vous parlez de la semaine?
J'ai voulu prendre une fois un billet pour entrer. C'était 134 euros.
Ouais.
C'était 78 euros en avion.
Ouais, ça alors, c'est ça.
C'est QFD. Merci Stéphane. Vous aurez conclu notre discussion. Le train.
En fait, les gens ne comprennent pas. C'est ça qui est.
Ouais. Malgré alors, peut-être, il y a un mauvais. Ils
ne comprennent pas pourquoi il y a ces changements.
Le train trop cher, mais le train est-il devenu un produit de luxe? On va regarder votre sentiment.
C'est pas mal le.
Oui, non.
Patricia.
Oui, 80%. Voilà. Allez, dans un instant, suite des GG, suite des grandes gueules avec le On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On discute, on débat dans les GG, dans les grandes gueules.
On rigole aussi, on rigole.
Oui, 16, venez continuer de commenter l'actualité, ce qui fait notre société, avec Étienne Dibigle, l'éducateur, avec Jérôme Marty, le médecin généraliste, avec Joël Dagosséry, la coach de vie. Tout à l'heure, à 10h, on reparlera des menaces de mort en ligne, vous savez, contre les proviseurs, contre les enseignants, contre les écoles. Est-ce qu'il faut de la prison ferme? Ou est-ce qu'on se contente de sursis et mesures éducatives ou prison ferme? On en débattra tout à l'heure à 10h. En attendant, c'est long, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Saint-Saint.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Signe de fébrilité à l'Élysée à 3 mois des européennes. Emmanuel Macron veut voir des têtes d'affiche sur la liste Renaissance. Le chef de l'État verrait bien Édouard Philippe ou encore François Bayrou devenir colistier de... Qui est la tête de liste de la majorité.
Madame,
c'est un aveu. Hein.
Voilà, c'est un aveu. C'est Valérie Ayer.
C'est un nouvel aveu, ça aussi.
Nouvel aveu. Pour muscler, donc Macron veut muscler en tout cas la campagne de la majorité.
De Valérie Ayer.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas. Étienne.
Bah non, on s'en fout pas.
C'est... Jérôme.
Non, on s'en fout pas.
Joël. Ah, c'est moi. Non, mais il veut Édouard Philippe, il veut François Bayrou, il veut Aya Nakamura, il est directeur de casting, il n'est plus, plus président de la République. Et en même temps, pourquoi avoir choisi une tête de liste qui n'imprime pas, qui n'incarne pas? Enfin, ça se voyait à l'avance, ça se sentait. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas directement choisi François Bayrou? Je suis sûre que François Bayrou serait très, très, très volontaire.
Tu crois qu'Édouard Philippe et François Bayrou, ils ont envie d'aller au casting?
À mon avis, ils ont d'autres ambitions.
Bah, je ne sais pas, mais... Il y a un problème dans l'écurie, il y a un problème sur le banc de touche, c'est qu'il n'y a plus personne, voilà.
Oh, vous êtes méchant.
Jérôme,
c'est moi, ça me fait. Je n'ai pas ouï dire qu'un sélectionneur mettait dans une équipe des vieux, quoi. Non, mais c'est un vrai. D'abord, ce sont des autant Édouard Philippe que François Bayrou, c'est des gens qui se voient bien président de la République.
Oui.
Comment on peut imaginer un seul instant qu'on pourrait les mettre à la 3e, 4e, 5e place
C'est des places non éligibles. En fait, pour avoir des poids lourds. Oui, tout le monde est derrière, Valérie.
Non, mais alors, est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu les gens pour des cons, par hasard?
Attends.
Non, mais c'est la vraie question. Tu
oui, sûrement.
Tu les mets en position inéligible.
Non.
C'est du marketing.
La vraie question, c'est vraiment où on en est arrivé en France aujourd'hui lors d'une élection. C'est-à-dire que. On ne lit pas les programmes.
Non, mais c'est du marketing.
On ne regarde pas la connaissance que les gens ont de l'Europe. On ne regarde même pas leur implication dans l'Europe. Et même, on serait prêt à voter des gens qui sont carrément anti-Europe pour être à l'Europe.
Et qui n'y sont jamais,
ce qui est absolument fou. C'est-à-dire que je pense que si on était un peuple intelligent, adulte.
On voterait Valéry Hayer.
Non, on ne voterait pas Valéry Hayer. On voterait en fonction de ce que ces gens-là sont capables de faire pour l'Europe.
Oui.
Pour l'Union européenne et pour l'avenir. Ben, non, on ne le sait pas. Qui lit les programmes? Qui s'intéresse véritablement?
Je ne comprends pas ce que tu dis.
Non, Étienne, c'est pas vrai. On connaît les visions. On sait qu'il y a des candidats souverainistes qui veulent une autre Europe, type Bardella.
Ça n'a pas de sens, une autre Europe.
Ou même Bellani. Dans ce cas-là, supprimons les élections.
Non, mais il y a des débats qui sont là pour ça, Étienne.
Il y a des débats au sein de l'Europe.
Non, il y a des débats pendant l'élection, pendant la campagne. Il y a des débats qui sont là pour ça.
Il y a une Europe, tu les entends où? Les débats de fond.
GG, le nombre de baptêmes, qui explose en cette période de Pâques, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
S'en fout pas.
Étienne?
Non.
Jérôme?
Ben non.
Sont les chiffres de la Conférence des évêques de France aux significatives, notamment chez les adultes issus de familles sans religion. Plus 31% de baptême en plus chez les adultes, donc en 2024. Plus 50% même chez les adolescents. Pourquoi on s'en fout pas, Étienne?
Non, c'est bien. Enfin, c'est très important. Moi, je trouve que... je suis pour la quête identitaire que vivent les adolescents. Elle est tout à fait normale. Elle ne peut passer à côté de la religion. Elle pouvait être politique. Elle pouvait être dans des engagements associatifs.
C'est reparti. C'est l'heure du coffre.
Eureka.
Vous m'envoyez coffre par SMS au seigneur de 16.
C'est aujourd'hui.
Vous avez 5 minutes pour m'envoyer coffre par SMS 732-16. Tentez de gagner les 50 000 euros tout à l'heure. À 11h20, vous êtes tiré au sort dans les GG, dans les grandes gueules. Soit 2500 euros au moment de tirage au sort, soit la semaine de vacances, soit les 50 000 euros. Ça vaut le coup de tenter votre chance. Coffre par SMS 732-16.
Les quêtes identitaires adolescentes, elles sont tout à fait normales. Elles peuvent passer à côté de la religion, ça peut être associatif, ça peut être militant, ça peut être politique. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un désintérêt pour l'engagement politique. Alors, est-ce bien, est-ce pas bien, j'en sais rien. Et je pense que cet engagement-là, qui est un engagement identitaire, c'est-à-dire on existe à travers notre histoire religieuse, on existe à travers... C'est quelque chose de tout à fait bien et il faudrait que ce soit pour toutes les religions, en fait, que chacun ait le droit d'avoir sa quête identitaire au sein de sa religion. Voilà.
Joël.
Non, moi, je m'en réjouis. Je trouve que pendant des années, on nous a vendu les valeurs de la République comme étant une nouvelle religion. Ça ne l'est pas. Ça nourrit pas l'âme, ni le sens qu'on veut donner à sa vie. Bien sûr, on les respecte, mais ça n'est absolument pas une religion. Et on a voulu remplacer un peu la religion par ça. Donc, moi, je suis plutôt contente. Et je l'observe parce que ma fille est rentrée de l'école il y a 2 semaines, je crois. Et elle m'a dit, maman, est-ce qu'on fait le carême? Donc ça veut dire, mais pourquoi tu me demandes ça? Elle me dit, non, on a parlé avec les copains. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais vu, même de mon temps.
Ils parlent de ça dans les cours de
l'école. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. parce que les jeunes cherchent à combler ce vide. Moi, je pense qu'il y avait un vide dans la société qui ne peut pas se remplacer ni par des valeurs de la République, ni par la consommation, les produits de consommation, etc. Et les jeunes se réapproprient ce qu'ils peuvent, ce à quoi ils peuvent se raccrocher. Et là où je vais dire que c'est un petit peu, ça fait un petit peu peur, même si je m'en réjouis, c'est qu'on sait très bien que dans les sociétés qui sont en insécurité, donc économique, etc., on se raccroche beaucoup, beaucoup à la religion. Tu le vois, par exemple, en Afrique, Haïti, des choses comme ça. Donc ça veut aussi dire que la France va Amérique, pas très bien.
États-Unis, Amérique du Sud.
Oui.
Oui, alors la crainte, c'est que ça soit des pratiques plus radicales qu'auparavant, dans toutes les religions d'ailleurs. On le voit notamment chez les jeunes musulmans parfois, mais même aussi, moi j'ai jamais vu autant de kippas à Paris, alors qu'il y a de moins en moins de juifs, hein, malheureusement, parce qu'ils fuient l'antisémitisme. Non, mais parce que non, c'est pas ça, c'est qu'ils l'affichent. Moi j'ai jamais vu autant de gens afficher leur religion.
Mais c'est une valeur refuge.
Donc il y a quand même quelque chose, il y a un phénomène en ce moment.
Il y a une insécurité sociale qui fait qu'il y a une valeur refuge qui ressort, et donc tu as l'Église qui regagne des parts de marché par rapport à ça. Quoi. C'est
pas de parler comme ça, mais faut pas oublier...
c'est la réalité. Quoi. Tu es d'un maximum de population qui se disait athée ou
donc c'est une société qui ne se donne pas suffisamment de repères.
C'est une société qui va mal. Il sera intéressant.
Il y a beaucoup d'immigration aussi chrétienne. Il y a beaucoup d'immigration chrétienne qui nous arrive d'Afrique, parce que la moitié de l'Afrique est largement chrétienne. Donc il y a beaucoup d'immigration à travers les évangélistes, mais pas seulement, aussi des catholiques. C'est beaucoup d'Africains qui arrivent en France.
Après, ce sera intéressant de voir s'il y a eu.
Quand on va dans les églises, on voit bien que c'est. Il y a plein de catholiques, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent d'Afrique.
Il y a beaucoup de prêtres africains aussi aujourd'hui qui
sont ici. Ce sera intéressant de voir si ce retour de la foi est accompagné d'un retour des vocations aussi. C'est-à-dire s'il y a de plus de personnes qui sont tentées par le séminaire et les ordres. Quoi.
Mais on a vu quand tu as ouvert la mission que tu étais peut-être tenté, toi, par le séminaire.
C'est, oui, c'est une retraite.
Père Marshall. Il a tellement de choses à se faire pardonner.
Père Marshall.
Pas mal. Porter la bonne parole. Ça fait 20 ans que je le fais.
La confession va durer 3 jours.
Ça fait 20 ans qu'on évangélise ici.
Surtout si on fait gagner 50 000 balles avec le coffre.
Comment ?
Surtout si on fait gagner 50 000 balles avec le coffre.
Ou alors je me barre avec les 50 000 euros.
C'est ça.
Ensuite, j'intègre une abbaye et puis on me retrouve jamais.
Il y en a des comme ça.
Il y en a eu comme ça.
Il y a eu du pont de Ligonnès dans l'abbaye.
Allez, ma chère Anaïs, continue.
Le concours de Miss Univers, les GG, c'est une première, une candidate représentera l'Arabie Saoudite en 2024. Très rapidement, on s'en fout ou pas, Joël ?
On s'en fout pas.
Jérôme ?
Moi, je m'en fous.
Étienne ?
Non, je m'en fous pas, c'est elle, c'est la dame qu'on voit là.
Donc, c'est l'Arabie Saoudite où les droits des femmes sont souvent entravés. Hein. On rappelle que le droit de conduire, par exemple, ou de voyager seul n'est possible pour les femmes que depuis quelques années. Alors, réelle avancée ou totale hypocrisie de présenter une candidate à Miss Univers ?
Mais elle n'est pas voilée, alors ?
Non, elle n'est pas voilée. C'est une très belle brune saoudienne, voilà.
Et les cheveux défaits.
Maquillée.
Très sincèrement qu'en ce moment, il se passe dans les pays du Golfe, mais sans qu'on puisse en faire une analyse de savoir si c'est purement par volonté économique, parce que je ne crois pas trop à l'hypocrisie religieuse, je crois plus à la volonté économique, parce que quand on traite avec le reste du monde entier, qu'on a des Américains, des Chinois, et qui viennent de partout, pas toujours pour des bonnes raisons, mais qui viennent faire du business dans le pays, et que le pays veut gagner, on fait comme les Chinois. Les Chinois, je vous rappelle, ils ont accepté de remettre en cause toute une partie de leur culture pour attirer des tas d'Américains chez eux pour faire du business. Je pense que c'est exactement le même truc. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, il y a une véritable évolution du pays.
Joël.
Moi, je trouve que c'est très bien, mais ça rentre dans une stratégie de l'Arabie Saoudite qui est en train de déployer une sorte d'influence à travers le foot, à travers beaucoup de choses. Et aussi, il ne faut pas oublier que moi, je pense que cette partie du monde, elle parie sur le déclin de l'Europe. J'en suis sûre. Et donc,
c'est la Russie et la Chine.
Mettre des femmes en avant et montrer en fait qu'on est un peu moderne et que maintenant on s'ouvre au monde, c'est une stratégie. Moi, je trouve que c'est une très bonne stratégie.
C'est drôle parce que ça prend les codes de l'Occident. Parce que Miss Univers,
allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les menaces de mort contre les proviseurs, contre les écoles, les vidéos de décapitation. Quand on retrouve leurs auteurs, est-ce qu'on doit se contenter de la prison avec sursis ou prison ferme ? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.